présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il en trouve un.
La grande cascade. On se fréquente sur la grande cascade. La grande cascade. On se fréquente sur la grande cascade.
Le lendemain, il décide, c'est de retourner à la rue et de voir. Et cette fois, il veut lui parler. Comme c'est loin, après son travail, il prend un taxi. Il retourne dans la rue. Ça le gêne parce qu'il y a des gens dans la rue qui le regardent d'une façon bizarre. Il se met en face de la maison et attend. Il y va pendant une semaine. Et le dimanche soir, il la voit sortir de la maison. traverse. Cours à elle. Elle lui demande: qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Je voulais vous parler. Et pourquoi? De quel droit vous m'attendiez? Il lui dit: est-ce que j'ai quelques questions à vous poser? Elle lui dit: je vous écoute, mais j'ai peu de temps. Elle lui dit: j'aimerais connaître des choses sur vous. Savoir si votre oncle est en quelque chose, et en quelque sorte, responsable de mon enlèvement que j'ai eu tout de suite après vous avoir connu. Elle lui dit outrée: mon oncle est un honnête homme. Il ne ferait pas ce genre de choses. Il lui dit: j'en doute, c'est un prêtre. Elle rougit et lui dit: en quelque sorte. Il lui dit: pourtant on a cherché à me séquestrer. Et des gens bizarres m'ont accosté. Même dans une église, une femme m'a dit de ne pas vous approcher. Alors, elle rougit et lui dit: tu ne vois pas? Une folle ou une fille? Oui, une folle. Et pourquoi m'a-t-elle dit de ne pas vous approcher? Elle lui dit: je ne sais pas, je suis comme vous. Et pourquoi accusez-vous mon oncle? Il ne vous veut pas de mal. Il remplace mes parents, qui sont morts, et même comme sa fille. Elle a les larmes aux yeux et lui dit: qu'est-ce que vous avez à me torturer? Je ne vous ai rien fait, et ni mon oncle. Il a pitié d'elle et veut la revoir parce qu'il l'aime, malgré tout. Alors il lui dit: je vous demande pardon, je suis stupide. Vous me pardonnez? Je vous en supplie. Je veux bien. Mais ne me posez plus de questions sur mon oncle. Il aimerait bien savoir qui elle est, que fait-elle et cet oncle. Et pourquoi cette maison lugubre, si sale? Et puis l'oncle. Il lui dit: nous pourrions repartir à zéro tous les deux. Mais oubliez tout ça, si vous voulez. Nous pourrions nous revoir. Elle lui dit: je veux bien. Tant que l'on se voit en cachette. Je suis jeune et les gens peuvent changer. Elle lui dit: je veux bien, mais où? Elle lui dit: peut-être au jardin du Luxembourg. Luxembourg, que la première fois. Venez à 18h. Mais je ne pourrai pas y être tout le temps. Et je ne sais pas quand. Elle lui dit: très bien. Elle lui dit: allez, maintenant, partez. Et il la quitte, heureux. Mais en s'en allant, il a comme une amertume. Et vous savoir ce que cache tout ça. Il décide, c'est de revenir, et cette fois de surveiller l'oncle. Il se dit: un prêtre, un homme sale et mal habillé, et pourquoi dans cette maison? Je vais me cacher de Brigitte et surveiller le prêtre. Cet homme ne m'inspire pas confiance. Nous attendrons une semaine avant d'aller surveiller le prêtre. Pour se faire oublier. Il va tous les soirs à 18h au Luxembourg. La retrouve assise bien sagement sur sa chaise à l'attendre. Les rendez-vous se passent à discuter de ce qu'ils ont fait la journée. Il la fait rire avec les histoires du siège et elle et ses amis du lycée. Ils marchent dans le jardin en se tenant par la main. Des fois, ils l'embrassent sur la joue. Cliff est très pris par elle. Il aime son visage, son corps, la trouve douce. Mais quelque chose le fait souffrir. C'est qu'elle ne se dévoile pas et qu'elle reste en retrait. Elle ne pouvait se donner entièrement. Il se demande si elle l'aime vraiment. Elle semble, malgré sa douceur intérieure, cacher quelque chose. Elle n'ose pas lui poser trop de questions sur elle, de peur de la froisser. Ce qui fait qu'il connaît très peu de choses d'elle. Ça le fait très souffrir. Il se demande quelles sont ses pensées. Malgré ses mystères, il l'aime. Il rêve d'elle la nuit. Dans ses rêves, il la voit douce, pure, fragile. Elle est en robe légère, blanche. C'est du voile. Dans les airs, il ne peut s'approcher d'elle. Des fois, il a envie, c'est de lui dire qu'il aimerait savoir franchement qui elle est. Parce que lui l'aime. Il veut savoir si elle aime, mais il n'ose pas. Il a peur de la perdre. Lorsqu'il pleut, ils vont dans un café prendre un peu de boisson. Dans un café, il y a du monde. Elle semble flotter, irréelle. Ça l'émeut et l'énerve. Des fois, il se réveille le matin en se disant « J'arrête, je ne veux plus la voir. » C'est peut-être une allumeuse. Mais il ne peut pas. Et à la sortie de son travail, c'est par le Maine au Luxembourg. Des fois, lorsqu'il ne la voit pas, il se sent soulagé. Il se dit tant mieux. Mais comme elle est absente et que l'on aime mieux une personne absente que près de soi, parce que on peut à loisir l'idéaliser, alors il se met à plus aimer et la désire près de lui, à peur de la perdre. lorsqu'il la voit, son angoisse augmente. Parce qu'il se pose des tas de questions. Qui est-elle? M'aime-t-elle? Etc. Oui, m'aime-t-elle? La vie amoureuse n'est pas facile. Des fois, il se dit que lorsqu'il n'était pas amoureux, c'était mieux. Les jours passent ainsi. Elle ne se rend compte de rien. Elle semble si pure, ne pose aucune question. Il se dit que si elle n'est pas vertueuse comme moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Mais des fois, il se dit que si elle n'est pas une victime, c'est qu'elle m'aime. Et fait confiance, c'est qu'elle doit m'aimer. Et fait confiance à l'être aimé. Elle m'aime vraiment parce qu'elle me fait confiance. Et moi, je dois moins aimer parce que je lui fais moins confiance. Pense tantôt comme ça, tantôt autrement. Mais comment être sûr d'être aimé et d'aimer? Est-ce qu'elle me fait confiance? Est-ce que c'est moi qui ne fais pas confiance? Est-ce qu'elle me fait pas confiance? Est-ce que c'est moi qui lui fais confiance? Il ne sait plus. Peut-être n'aime-t-il que son mystère. La pauvre. Eh, il va espionner son nom. Il cherche à savoir qui est vraiment la personne qu'il aime, qui est son nom. Il cherche à vraiment savoir qui est vraiment la personne aimée pour la respecter. Mais la respecter, c'est lui laisser peut-être son mystère. C'est ça aimer vraiment. Ou c'est entrer en communion avec l'autre et tout savoir de l'autre. Alors, libre de savoir avec qui elle vit. Et cherche à savoir qui est cet oncle qui lui semble si bizarre. Lorsqu'il ne voit pas Brigitte au Luxembourg, il va vers chez elle et fait attention de ne pas être vu. Des fois, il voit l'homme sortir de la maison. Il a une vieille soutane, noire, tachée. Il marche ses mains dans le dos. Luc voit qu'on le salue dans la rue. Il parle à voix basse, des gens aussi sales et bizarres que lui. Un jour, Luc l'a suivi. Il est entré dans un immeuble abandonné. Et l'homme, il a vu l'homme aller au fond de l'allée. Il est allé dans le couloir des corps de l'immeuble. Là, il le voit déplacer des planches qui sont contre le mur. Et passer à travers de ces planches pour entrer dans une pièce où il y a des gens qui sont réunis. Cliff regarde à travers les planches. Et là, il voit des gens qui sont réunis, qui parlent à voix basse, se mettent en cercle autour du prêtre. Et le prêtre fait des incantations. Il y a sur le mur de la corde de drôle de cire de fille peint en rouge. Clip a peur et s'en retourne. Je dis que c'est un prêtre bizarre. Lorsqu'il voit le prêtre, il est toujours seul. Saint Brigitte, il est vraiment bizarre. Cliff se dit qu'il ne veut pas dire à Brigitte qui suit l'oncle et qui sait qu'il fait des drôles de choses. Il a suivi l'oncle, il la trouve douce et sans défense. Et sait qu'elle n'est pas heureuse. Il se voit régulièrement. Elle lui dit qu'elle était au lycée Henri IV. Et que c'est son oncle qui l'a fait rentrer. Et lui demande comment a-t-il pu faire? C'est très difficile de rentrer au lycée. Et ton nom ne semble pas être de là-haut. Elle lui dit, connais des professeurs qui l'ont aidé. Il se dit, bizarre. qu'il ne sait pas, c'est que certains professeurs du lycée Henri IV sont des disciples du prêtre. Le prêtre leur a donné un travail, un rôle, c'est de voir si parmi les élèves du lycée, il n'y aurait pas des jeunes qui pourraient entrer dans la secte. Les professeurs surveillent les jeunes gens pour voir s'il y a derrière la porte, ils pourraient y rentrer. En plus, ce sont des jeunes de là-haut. S'ils entraient dans la secte, ils deviendraient puissants, intouchables. Et elle serait riche. La secte veut s'introduire dans les familles bourgeoises, par l'intermédiaire des élèves, de fils de cadre, PDG, professeur, artiste. Tout ça c'est bon pour la secte, pour le prêtre. Il y a très peu de professeurs au lycée qui sont disciples du prêtre et la direction ne le sait pas. Et le professeur sont plutôt du côté tremblant gouvernemental. Par l'intermédiaire des jeunes, pour faire entrer dans la secte. Et pour ça, il faut se servir de leur faiblesse. Pouvoir. Les professeurs ont remarqué Gilles Prenne et Frédéric Barche, les deux jeunes gens qui se croient des surhommes et au-dessus des autres, de l'État, des lois, mais ça n'a pas marché, parce que les deux jeunes gens n'aiment pas les bombeuseries. Brigitte, au lycée, Henri IV, a fait la connaissance d'Alexis et de Mathieu. Elle les trouve gentils. Mais elle préfère Cliff. De tout ça, Cliff ne sait rien. Mais il sent que quelque chose est bizarre dans la vie de Brigitte. Toi, Brigitte lui dit, mon oncle ne veut plus que l'on se voit. Il l'a appris. Il lui dit, ton oncle, je le trouve bizarre. J'ai vu des fois dehors, il se comporte drôlement avec les gens. Elle lui dit, c'est normal, c'est un prêtre. Il demande, mais pas catholique. Elle lui dit, il est, disons, d'une église particulière. C'est lui qui a créé les dogmes. Donc, il n'est pas catholique. Non ? Alors, pourquoi il a une soutane ? Parce qu'il était prêtre. Et pense toujours qu'il est, toujours malgré les divergences qu'il a avec la religion catholique. Il lui dit, c'est un peu compliqué tout ça. Et toi là-dedans, elle lui dit, il m'a fait une de ses disciples particulières. Et tu crois en lui? Oui, c'est mon oncle. Il lui dit, je veux bien. Mais son comportement n'est pas normal. Elle lui dit, Il est obligé de faire attention. Les catholiques ne l'aiment pas. Il est obligé de se cacher. Nous changeons souvent de lieu. Et il demande. Et tu veux qu'on se revoie? Oui, mais... Oui, mais en faisant attention, il y a beaucoup d'espions. Et ils continuent à se voir dans le parc, café, restaurant. Malgré qu'ils fassent attention, ils sont vus. Par exemple, le lapin a vu Cliff et Brigitte sur quoi marcher la main dans la main. Elle le dit à Judith au restaurant le soir. Le restaurant où elle monte de temps en temps qui est en face du siège. Cliff avec une belle jeune fille. Ils se promenaient la main dans la main, amoureusement. C'était beau à voir. Judith, malgré elle, a mal. Et en même temps, elle est inquiète. Elle lui demande comment était la jeune fille. Dans les 17 ans, longue, neige, mince, bien quoi. Es-tu sûr que c'est toujours la même? Oui, bien sûr. Le soir, en sortant du travail, Judith entre dans sa voiture et attend Cliff qui sort du siège. Elle lui fait signe. Il va à elle. Elle lui dit, tu montes, je te raccompagne. Il lui dit, pas la peine, je rentre à pied. Merci. Elle lui dit, ça nous permettra de parler 5 minutes. Il lui dit, bien. Il entre dans la voiture et elle la met en route. Bien, il dit, oui, merci, et toi? Elle lui fait, moi, oui, je ne te vois plus, tu viens plus me voir. On dit que tu es très pris. Je ne suis plus ta déesse, tu en as une autre? Il lui dit gêné, oui, je fréquente une jeune fille. Elle le mène vers chez elle, lui dit, viens. Ils sortent de voiture, il la suit. Une fois chez elle, elle se pend son cou et lui dit, j'aimerais t'embrasser et que tu sois mon petit oiseau à moi. Elle l'embrasse sur les lèvres. Un soir, que Cliff suit l'oncle, l'oncle remarque et décide de se renseigner qui est ce jeune homme. Il fait suivre Cliff par ses gens. Mais, le lendemain après-midi, une femme frappe à la porte de la maison de l'homme. C'est une vieille clochard. C'est le prêtre qui l'a fait entrer. Il lui demande, et alors ? Elle lui dit, il vit seul, quartier Loupéra, travaille chez Franblanc et fréquente ta fille. Le prêtre lui dit, merci. Et il l'a fait sortir. Il aimerait s'éliminer Cliff. Il travaille chez Franblanc, mon ennemi. Mais il faut que je fasse attention. Les attentats continuent et créent beaucoup de victimes. L'armée s'enlise. Les Africains en ont assez aussi. Je ne vois Denis ni Ben Ali le Grand, celui qui a pris Jean, se dispute avec sa famille qui veut qu'on la rende aux Occidentaux. Il refuse. Il leur dit, je suis un chef de guerre. Je ne peux pas faire ça. Ce serait accepter la défaite. Jean est un alibi. On est obligé de la garder. Sa mère, qui est une femme, grande, maigre, cheveux blancs, habillée d'une robe blanche, lui dit, c'est une femme de rien, une putain d'occidentale. Des femmes, tu peux en avoir autant que tu veux. Alors, pourquoi celle-là ?
Et parce qu'elle est un symbole.
Lui, mais elle va nous apporter le malheur. À cause d'elle, nous allons tous périr.
Non, ce seront les autres qui vont périr. Les Occidentaux sont faibles. Ils n'ont plus rien pour se maintenir. Ni foi, ni loi, ne croient même plus en ce qu'ils sont. Et nous, nous sommes forts parce que nous croyons en ce que nous sommes. Nous avons la foi. Nous nous sentons autres, différents. Nous croyons ce que nous sommes. Ce sont les Occidentaux qui sont faibles et non nous.
Mais ils ont la technologie.
Et nous, nous avons la force de Dieu. Ils ont la technologie. Parce que pour eux, c'est la seule chose qui les maintient debout. C'est comme une béquille. Et sans la technologie, ils s'effondreraient comme des jetons.
Jean apprend que la famille de son amant veut la rendre aux Occidentaux.
ça la rend furieuse. Elle se dit qu'elle se vengera d'eux dès qu'elle le pourra. Les jours passent. C'est terrible pour les soldats en Afrique et les gens en Europe qui sont attaqués par les attentats. Entre Judith et Brigitte. Il préfère Brigitte parce qu'elle a l'air plus douce et sent qu'elle est malheureuse. Et puis, elle a à peu près son âge. Mais Judith représente la femme, la vraie, qui a un côté très attirant. Et puis, elle l'a aidée. Alors, ils se sont obligés de la voir de temps en temps. Judith le fait surveiller. Elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais surveiller distraitement. Mais elle a donné l'ordre, pour lui donner une bonne leçon, de l'aider qu'à la dernière minute, que si c'est vraiment nécessaire. Il faut qu'elle reçoive des coups. Les jours passent. Cliff a l'impression qu'on le suit, qu'on le regarde d'une drôle de façon. Ça le gêne. Il se demande si c'est pas l'oncle qui le fait surveiller. Oui, c'est l'oncle qui le fait surveiller par ses adeptes. Un soir qu'il marche dans la rue est déserte. Tout d'un coup, il s'en prit par derrière. Il sursaute, il demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» On lui dit rien. Il essaye, c'est de se défaire de l'emprise. Mais on tient bien. L'homme qui le tient sent mauvais. Il dit « Lâchez-moi !» J'ai rien fait. Lâchez-moi. Il défend comme il peut. Se défend comme il peut. Et l'homme le pousse à l'intérieur d'une allée. Une allée sale et sombre. Cliff se dit, ça y est, je suis perdu. Oui, je suis perdu. Il perquait contre le mur. Et voit l'homme qui fait face. Un visage laid, sale. Un bonnet de laine qui cache ses cheveux. Il a un couteau à la main. Cliff voit briller la lame près de son visage. Il a peur. Et lui demande... Qu'est-ce que vous voulez ? L'homme sourit. Cliff tremble. Tremble. Un petit bruit fait retourner l'homme.
Cliff en profite pour donner un coup de pied au ventre, ce qui fait reculer l'homme et lâcher Cliff, qui en profite pour se mettre à courir vers la sortie. Mais l'homme court après Cliff. Cliff, d'un bond, a pris le couteau à terre et sauve vers la sortie. L'homme le rattrape et veut lui barrer le passage. Cliff fait le geste de lui donner un couteau. Et il lui donne un couteau dans le ventre. L'homme se retire et tombe à terre. Cliff en profite pour courir vers la sortie. Il en a assez de tout ça. Il décide de raconter ce qui est arrivé. Rentre dans un commissariat de quartier. C'est un porte-porte d'un vieil immeuble. L'intérieur est sombre, mur jaune sale, banc en bois. Ça fait genre 1950. À côté de la banque, il y a des escaliers étroits qui vont à l'étage. Cliff va à l'accueil. Il y a un jeune homme habillé en policier, grand, mince, blond, dans les 25 ans. Il lui demande « Vous désirez, monsieur ?» Cliff lui dit « J'aimerais parler au commissaire, je viens d'être agressé. » Le policier lui dit « Il y a tellement d'agressions, d'émeutes, d'attentats, voulez-moi vraiment porter plainte ?» Cliff lui dit « Oui, » il dit. « Bien, je vais voir si le commissaire peut vous recevoir. » Prend le téléphone, fait un numéro. « Allô, c'est l'accueil. Il y a un jeune homme qui aimerait faire une déposition. Il a été agressé. »« Oui, je sais, je lui ai dit, mais il insiste. »« Bien. » Il raccroche, dit à Cliff. « Bon. » Il veut bien vous recevoir. Montez au premier, il vous attend. Merci. Et Cliff monte au premier. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Guerre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.